Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous retrouvons un amoureux de la classification. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ?
Je m'appelle Alexis, donc j'ai 30 ans. Je fais un doctorat CIFRE sur une plante qui s'appelle la benoîte commune. Donc je travaille à la fois avec la ville de Paris, le jardin botanique et aussi l'université Paris-Saclay. J'ai dans ma famille un grand-père qui était un petit peu une référence familiale, de très droit, je pense, de très juste, et qui était passionné par les champignons. À l'époque, avec ma grand-mère, ils allaient cueillir un champignon, ils les mangeaient, et un jour, ils se sont gourés, tout le monde est tombé malade. Mon grand-père, il a pas trop aimé ça, il s'est dit, c'est pas normal, et il est devenu complètement passionné et expert en champignons. C'était au point qu'il bossait avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et qu'il faisait des expéditions en Norvège pour aller faire des symposiums et essayer de chercher de nouvelles espèces de champignons. Il m'amenait beaucoup sur ces question du vivant, et je me souviens, moi j'étais à fond, comme tous les enfants, sur les trucs de dinosaures. La question des dinosaures, moi elle m'a pas lâché. Et je suis allé jusqu'à faire un master en paléontologie. Il n'y avait pas que de la paléontologie, il y avait aussi de la systématique, donc l'étude des systèmes et des classifications du vivant. Et c'est comme ça en fait, j'ai suivi ce cursus-là. J'ai toujours aimé la nature, j'étais pas naturaliste, j'aimais bien le vert, j'aimais bien les animaux. J'ai continué à m'intéresser au vivant sous plein de formes. J'ai bossé par exemple sur des musaraignes d'Afrique de l'Ouest. Puis à côté de ça, j'ai d'autres hobbies un peu plus classiques, donc j'ai fait beaucoup de basket et je fais aussi de l'apnée. Il y a ce truc un peu de reconnexion en fait, on prend le temps et en même temps, on n'a pas le choix que d'être calme et de se poser et de regarder un peu ce qu'il y a autour de nous. Cette idée que j'ai de reconnexion avec le reste du vivant, ça passe par un truc un peu calme, je trouve. C'est un truc un peu de se poser, puis de prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous.
Dis-nous, Alexis, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi ? Est-ce que tu saurais le décrire en trois mots, une couleur, un goût, une odeur, une texture ?
La diversité. Il n'y a pas de vivant sans diversité, tellement de choses. Et ça, je trouve ça magnifique. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré dans mes études et dans ma façon d'appréhender la vie, de voir que c'est riche. Je trouve que ce mot, il suffit pour décrire le vivant. Couleur, très bêtement, je vais te dire le vert. La couleur qui est associée aux plantes et que je trouve très belle et que ça fait partie du vivant et c'est quelque chose d'assez important dans le vivant. Un son lié au vivant quand t'es sous l'eau. Le son où tout est étouffé, c'est un milieu où je me sens vraiment à l'aise pour faire de l'observation du vivant, que tu sois en apnée, en plongée ou de la façon dont on veut. Le seul son qu'on a, c'est le remous, c'est des gens, si on est avec d'autres gens qui vont parler, les bulles, si on fait de la plongée. C'est des sons auxquels on n'aurait rien à foutre autrement. Et donc j'aime bien les associer au vivant. Un goût, le goût du basilic. C'est un peu en lien avec une odeur. Quand tu parles aux gens des plantes, un moyen très efficace pour en parler, c'est l'odeur, justement, la question des odeurs. Quand tu fais sentir une feuille d'oranger du Mexique à des gens, la réponse qu'on me sort tout le temps, c'est « Ah, ça sent le basilic ». Et c'est pour ça que je fais ce lien, en fait. Moi, j'adore le goût du basilic. Une texture, c'est plus compliqué. Une texture un peu molle. En s'intéressant à la diversité des animaux, tu te rends compte qu'en termes de forme qui existe, 80% des animaux, c'est des vers mous. C'est des vers un peu mous, un peu durs, mais c'est des vers, quoi. Et du coup, moi, quand je pense au vivant, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense aux vers. Le fait que les animaux, la majorité, c'est des trucs qui ont des formes de vers. Et donc, ils sont tout mous.
Comment
Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
Dans le cadre de mon projet de doctorat, j'ai été contacté par une équipe d'anthropologues qui travaille sur un projet qui s'appelle Exorigine et qui questionne le lien entre l'humain et les plantes au travers des voyages. Et donc je vous conseille d'aller voir au Jardin des Plantes, juste en face de la Galerie de l'Évolution. Ils ont un jardin lié à ce projet qui s'appelle le Jardin des Altérités, où ils parlent de différentes altérités. Et donc par exemple, il y a l'altérité religieuse. L'idée, c'est que les plantes sont associées aux humains. Et il y avait un truc intéressant avec, par exemple, le chou cavalier. Au Portugal, c'est une plante qui est mangée classiquement, alors qu'en France, on le donne aux chevaux. Et donc ça questionne ce rapport de l'humain et des cultures face au reste du vivant. Comme je travaille en milieu urbain, ce qui me questionne beaucoup, c'est que pour beaucoup de gens, le monde urbain n'est pas un monde naturel. C'est un milieu qui serait un milieu, parce qu'il y a beaucoup d'humains, parce qu'il est très anthropisé, qui serait à part. Je me souviens d'un cours d'écologie que j'avais eu en licence, et j'avais parlé avec un prof à la fin, et donc en écologie on nous parlait d'animaux, tout ça, et puis moi je lui dis, mais alors l'humain c'est quoi dans tout ça ? Et moi, il me dit, nous en écologie on s'intéresse pas aux humains. Et moi je suis pas d'accord. L'écologie c'est la science qui s'intéresse aux êtres vivants et aux relations qu'ils ont entre eux, et aux relations qu'ils ont avec leurs environnements. Et ben je vois pas pourquoi l'humain ne serait pas un être vivant. Et donc il y a plein d'explications. Par exemple, il y en a une, c'est l'héritage des religions monothéistes qui à la fois place l'humain à l'image de Dieu, donc au-dessus du reste de la création. Ça s'applique au milieu urbain. En fait, le milieu urbain, ce serait un milieu pas naturel. Qui dit pas naturel dit pas vivant, en fait. Enfin, où le vivant n'aurait pas sa place, où l'humain peut tout contrôler. Je pense que l'humain fait partie de la nature, et donc à ce titre, les productions humaines sont naturelles. Humain-nature, c'est un dualisme. Et moi, je pense qu'il faut sortir de ce dualisme, et dans le lien du vivant qu'on a tout à faire. Il y a des possibilités assez folles, en fait, et de considérer qu'une plante en ville, c'est de la nature. Un humain en ville, c'est de la nature. Tout ce qui est en ville, c'est de la nature. Et donc ça, c'est changer son rapport au vivant et se dire peut-être que si tout ça, c'est de la nature, ça veut dire que l'humain, il contrôle pas tant que ça la nature. Il contrôle pas toutes ces choses-là. Et finalement, à croire qu'on est des gestionnaires de tout, en fait, on contrôle pas tant que ça. Quand je parle de contrôle, c'est un peu une vision hygiéniste. On contrôle les maladies, on contrôle la salubrité publique, on contrôle... Alors qu'en fait, pas du tout. Essayer d'être vraiment plus humble, de redescendre, là, d'arrêter de croire qu'on gère tout et de se dire on peut s'associer au vivant, on peut vivre avec le reste du vivant et de toute façon on peut pas ne pas vivre sans le reste du vivant et donc on peut aussi se poser face au vivant et peut-être essayer d'écouter, de regarder, de se calmer.
Qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
J'aime pas cette question, parce que elle pose l'humain en dehors du vivant. Évidemment, il suffit d'ouvrir les yeux, il y a une spécificité humaine, quoi. Là, je suis dans mon appartement, au milieu de Paris, il y a quelque chose, quoi. C'est une question où je peux pas me mettre à la place du reste du vivant. Je peux que parler de nous. Et nous, on a changé notre rapport au vivant. Mais on n'est pas maître de ce que eux font. On contrôle pas comment le vivant, lui, chercherait à interagir avec nous. J'ai pas trop de réponses à apporter, à part se calmer, quoi.
On va passer à la question d'actu. Le 31 octobre dernier, en prévision de la Toussaint, des affiches ont été placardées par les gestionnaires dans le cimetière de Drancy. Ces dernières avertissent les familles des défunts que la concession arrive à expiration et qu'il faut donc la renouveler en mairie. Ce type d'action est de plus en plus observé dans les cimetières français, dans le but de gagner de la place pour nos morts à venir. Plusieurs études sont en cours pour déterminer les raisons du retard de décomposition observé de plus en plus fréquemment sur les défunts des dernières décennies. Parmi les facteurs étudiés, on retrouve la composition, la qualité du sol, son activité biologique, ainsi que le dérèglement climatique. Certaines tendances actuelles souhaitent ainsi redéfinir la place de la mort dans notre conception du monde occidental. On peut ainsi citer les capsules funéraires avec un arbre incorporé ou encore la végétalisation des cimetières. Dis-nous, à la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Je me mets du point de vue d'une famille qui arrive et on lui dit « Ouais, ta confession, soit tu la renouvelles, soit tu pourras plus témoigner ton respect. » Alors là, sur la question des cimetières, s'il y a une question de biologique et biodiversité derrière tout ça et de vivant, comme tu as dit, qu'il y a une activité du vivant qui est complètement réduite par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, il faut faire quelque chose. Et donc là, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais te faire un petit détour par la ville de Paris qui n'utilise plus de produits phyto dans ses cimetières. Et notamment, le Père Lachaise a été un espace d'expérimentation pour ça assez intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des résultats comparables. Ce serait intéressant, tiens, d'aller voir de ce côté-là. Et sur la question de la mort, tu vois, ça va être très bizarre peut-être pour des gens ce que je vais dire. Moi, j'ai longtemps dit à ma famille, jetez-moi du haut d'une montagne ou je sais pas, laissez pourrir mon corps quelque part, là, que je nourrisse le vivant. Alors bon, peut-être que si je meurs et que mes organes peuvent être prélevés, j'aimerais que mes organes soient prélevés. Et puis le reste du corps, si ça peut nourrir, bah que ça nourrisse. Les capsules funéraires, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper beau. La mort, ça fait partie du vivant. Tu vois, je veux dire, tu définis pas le vivant sans la mort. Moi qui ai fait de la systématique et de la paléontologie, on parle beaucoup des crises d'extinction, de ce que c'est qu'une espèce, qui est un concept qui est pas clair encore, enfin je trouve personnellement, comment ça persiste dans le temps et comment ça change et tout. Je suis à l'aise avec l'idée qu'il y ait de la mort, il y ait des disparitions. Attention, je relativise pas non plus la sixième extinction et le rythme auquel ça se produit, l'impact de l'humain, etc. Je suis parfaitement conscient de tout ça et qu'il y a beaucoup à faire. Mais moi, dans mon rapport personnel, c'est différent. On m'a dit aussi que si on jetait mon corps en haut d'une montagne, c'était pas possible d'un point de vue de salubrité. Du coup, la capsule funéraire, c'est beau. Il y a une mort qui permet une nouvelle vie. Et je trouve ce message hyper beau, en fait. Et plein de sens. Il y a un truc mort et il y a la même espèce, le même truc, ou une autre espèce, qui en profite pour pousser. Ça lui ouvre un espace et ça permet à d'autres vivants d'exister. En fait, est-ce que la mort, c'est pas une opportunité pour une nouvelle vie et voir les choses comme ça?
On va passer à l'agenda. Quel rendez-vous ou référence voudrais-tu nous communiquer ?
À Paris, dans le 20e, il y a un espace rue de Stendhal, donc c'est pas loin du Père Lachaise, qui est tenu par une asso qui s'appelle Paysans Urbains. Ils ont un concept, c'est qu'ils font de l'insertion. Ils aident des personnes en situation professionnelle précaire pour faire de l'insertion, et donc ça peut être par la forme d'un ACI, on appelle ça un atelier chantier d'insertion, et c'est des contrats de 4 mois renouvelables sur des thèmes. Et en fait, le but, c'est d'aider les gens à réapprendre à travailler en équipe, à suivre des projets, à s'intégrer dans un projet, à faire des formations aussi. T'as des formations pour le CV, pour le permis, etc. En fait, cet asso, ils font des micro-pousses qui revendent à des chefs, à des restaurateurs. C'est au milieu d'immeubles, il y a juste une route qui passe à côté et qui est pas très exploités. Et eux, ils font de l'agriculture urbaine. Ils se questionnent. Ils disent, là, on a laissé en friche. Juste, on taille les ligneux parce que on veut que ça reste que de l'herbacée et qu'on n'ait pas des buddleias partout en 2 ans. Mais je pense que c'est un endroit d'échange. Eux, ils sont dans ce truc concret de re-questionner le lien vivant. Je suis obligé aussi de parler un petit peu d'un ancien projet sur lequel j'ai bossé avec l'Association des jeunes pour le développement à Bagnolet. C'est un projet qui s'appelle 4 saisons. C'est un projet où, pareil, ils ont vocation à monter un atelier chantier d'insertion sur les questions de gestion des espaces verts. Ils font aussi un peu d'agriculture urbaine. Ils font des potagers chez les gens, dans les immeubles, chez les bailleurs sociaux, par exemple, et ils invitent les gens à venir. Et donc, du coup, il y a des petites familles qui viennent. En fait, c'est la réappropriation par un lien avec le vivant d'un espace. Ça m'a beaucoup avancé dans ma vie, ça m'a permis de comprendre plein de choses, comment on s'ouvre aux gens, comment on n'est pas tous pareils et comment on réfléchit pas tous pareils, et c'est normal en fait, faut juste l'accepter. calmons-nous, soyons humbles. Et je pense que ça nous apporte beaucoup de bonnes choses, d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif.
Tu as pêché où, baobab, acajou.
Cet épisode, aux côtés de ce passionné de la classification, s'arrête. La semaine prochaine, nous continuons notre voyage pour retrouver la vision d'un autre amoureux du vivant.
Tremble, tremble être noyé.